Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vais vous raconter aujourd'hui une affaire criminelle absolument passionnante qui se déroule en Bretagne en 2006, l'enquête sur la disparition d'Adeline Piette. Je ne vais pas vous en dire trop tôt, parce que c'est une enquête qui dure 2 ans, qui est truffée de fausses pistes et qui se termine, enfin vous verrez. 2 avocats pour le débrief tout à l'heure. Maître Pierre Stichelbeau, avocat de l'accusé, que je salue. Bonjour maître.
Bonjour.
Et maître Colette Loas, avocate des parties civiles, à savoir les 7 enfants d'Adeline Piette. Bonjour maître Loas.
Bonjour.
Voici donc ce récit que j'ai écrit avec Thomas Audouard. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Cette histoire se déroule dans un petit village de Bretagne, la Gouesnière, près de Saint-Malo et de Cancale. Dans une famille, les Piette, qui, disons-le tout de suite, flirtent avec le quart-monde. Les Piette vivent des allocs. La mère Adeline a 34 ans. Savez-vous combien ils ont d'enfants ? 7. 7 enfants à 34 ans. Les 2 premiers sont ceux d'Adeline et d'un premier mariage. Les 5 suivants sont à eux deux, Benoît et Adeline. Au moment où débute cette histoire, l'aîné a 16 ans, la petite dernière 3 ans. Ils habitent une maisonnette perdue dans la campagne avec 1 hectare de terre autour. On est chez les Cassos. Je voulais vous dire ça juste avant que le crime n'ait lieu. L'histoire commence le 1er juillet 2006. Au moment où les gendarmes passent déposer chez les Piette une convocation pour madame. Oh, rien de grave, hein. Une histoire à la noix. Le chien des Piette se sert régulièrement dans le poulailler des voisins. Il les a mis en garde plusieurs fois, la mère Piette l'a envoyé bouler. Alors il a fini par porter plainte. Voilà l'histoire. Et donc les gendarmes voudraient que madame Piette vienne à Cancale pour l'auditionner.
Ah mais moi, j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture non plus, et mon mari a un scooter mais je sais pas bien le conduire. Comment que je fais ?
Les gendarmes lui disent de se débrouiller et ils lui donnent rendez-vous pour le lendemain en début d'après-midi. En vain, puisque le lendemain, elle ne vient pas. En revanche, le surlendemain, débarque son mari, Benoît.
Ah bonjour, voilà, je viens pour signaler la disparition de ma femme.
Comment s'appelle-t-elle ?
Adeline. Adeline Piette.
Adeline Piette. Ça me dit quelque chose.
Bah oui. Hier, elle devait venir vous voir pour une histoire de poule. Elle est partie à pied de la maison vers 12h30 pour venir chez vous, et puis... aucune nouvelle. Elle n'est pas venue vous voir ?
Ah non, non. Elle n'est pas venue. Vous avez une idée de ce qui a pu lui arriver ?
Oh bon, mon avis, c'est bien clair, hein. Elle s'est barrée. Elle a un amant, j'en suis sûr. Elle m'a planté là, avec les 7 gosses.
Ah ? Vous avez 7 enfants. Et c'est vrai que c'est étonnant. Une mère de famille de 7 enfants qui s'enfuit pour un amant.
Ça n'est pas courant. En général, entre nous, ce sont les pères qui se barrent.
Les mères n'abandonnent pas leurs enfants. Enfin, c'est très rare. Et donc les gendarmes décident d'attendre 48 heures en se disant « elle va bien finir par rentrer ». Sauf que 2 jours plus tard, elle n'est pas rentrée. Et là, ça devient sérieux. Et les gendarmes découvrent le contexte qui vient éclairer ce départ brutal. Les Piette sont en instance de divorce, selon le mari, à cause de l'amant. Peu importe. Le juge n'a pas encore prononcé le divorce, mais il a confié la garde des marmots à la mère, qui garde aussi la maison, bien sûr. Et normalement, ils devraient vivre séparés, mais où voulez-vous qu'il aille, le bougre ? Benoît est toujours là. Sur le papier, dans 10 jours, il doit avoir dégagé le plancher. Les gendarmes font le tour de la Gouesnière. C'est pas bien grand, hein ? 1700 habitants. Tout le monde connaît Adeline Piette, évidemment. Une mère de famille nombreuse avec 7 enfants, ça ne passe pas inaperçu dans un tout petit village. Tout le monde vous raconte qu'elle est sur la route toute la sainte journée, un marmot dans les bras et une bouteille de gaz dans la poussette.
Et vous l'avez vue récemment? Elle est portée disparue depuis le 1er juillet. Ah non? Récemment, moi je l'ai pas vue.
À un moment, les gendarmes recueillent deux témoignages qui soulèvent un petit espoir. Une habitante de la Gouinière dit qu'elle l'a vue le mardi qui suit sa disparition, à un arrêt de bus. Et le gérant du bar tabac du village confirme.
Ah ben oui, hein. Moi je suis sûr que je l'ai vue le 4, le mardi 4. Elle est venue m'acheter des cigarettes.
C'est troublant. Mais à part ça, rien d'autre. À un moment donné, ça devient compliqué. Le mari se dit, qu'est-ce que je fais? Il faut que je m'occupe des enfants. Mais je n'en ai pas la garde. Et si je m'en occupe, il faut que j'habite la maison, mais je n'ai pas le droit de l'habiter. Donc Benoît va voir un avocat pour récupérer et la garde des enfants et la maison. Et on attend. On attend. Les semaines passent. Et arrive la fin de l'été. Son compte en banque n'a pas bougé. On n'a pas utilisé sa carte vitale. Adeline Piette n'est toujours pas rentrée s'occuper de ses 7 marmots. Et là, au charme des petits villages, les habitants de la Gouinière se mettent à cancaner.
Oh! Elle a été prise dans une secte, oui. Un gourou l'a mis le grappin dessus. Vous
voulez que je vous dise? À mon avis, elle tapine.
Moi, je l'ai vue sur la route de Saint-Méloir-les-Ondes. Elle n'avait pas l'air de faire son jogging, hein.
Ça, je vous le dis tout de suite, hein, c'est quelque chose qui va revenir en filigrane tout au long de cette histoire. Le fait qu'elle ait pu se prostituer, ça ne sera jamais prouvé. En attendant, une autre rumeur fait son chemin, de maison en maison, jusqu'à l'oreille des gendarmes.
Il l'a tué. Il l'a tué, il l'a enterré dans son jardin.
Allez-y voir. Il a fait un trou.
Sauf que les gendarmes ne voudraient pas que le père, pour l'instant, sache qu'on s'intéresse à lui. Or, le jardin n'est accessible que par la maison. Alors vous savez ce qu'ils font? Qui a dit que la justice française n'avait pas les moyens? Qui? Ils font venir un hélicoptère pour prendre des photos de la maison et du jardin d'en haut. Et qu'est-ce qu'on voit sur les photos? Eh bien, on voit une bâche bleue qui recouvre une bonne partie du jardin. Eh bien voilà, maintenant on y est. Et le 26 septembre 2006, presque 3 mois après la disparition d'Adeline, les gendarmes débarquent chez les Piettes avec des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres. Et ils les font se balader sur le terrain, 1 hectare au total. Eh bien les chiens ne mouffent pas. Rien. Il n'y a pas de cadavre. Mais il y a des trous dans le jardin, ça c'est vrai. Et cette fichue bâche bleue, qui s'avère être installée sur des ballots de foin.
Monsieur Piette, ça sert à quoi cette bâche-là et cette paille? Oh, ça, je l'ai bricolé comme j'ai pu. Ça sert de pataugeoire aux enfants, pour l'été. On peut pas se payer de piscine, hein.
C'est une piscine de Romain Michel. Et ça, depuis l'hélicoptère, il ne l'avait pas vue, bien sûr. Tant qu'à faire, les gendarmes en profitent pour visiter la maison. Oh là là, un bordel! Le sol jonché de vêtements sales, la cuisine en vrac. Le pauvre Benoît Piette a l'air complètement dépassé. 7 gosses, il n'y arrive pas. À part ça, les experts de la gendarmerie passent toute la maison au Blue Star. Pchit-pchit dans tous les couloirs. S'il y a la moindre trace de sang, elle apparaît avec ce produit. C'est imparable. Verdict? Rien. Pas une trace. Et Benoît Piette est là, qui assiste à tout ça, impassible, stoïque, comme un type qui sait qu'ils ne trouveront rien. Et ils ne trouvent rien. Enfin, si, ils ne trouvent rien qui l'incrimine dans le meurtre de sa femme. En revanche, oh là là, ils découvrent un sacré zozo, un sacré numéro. Écoutez bien. Depuis qu'il est divorcé avec Adeline, ils font chambre à part. Alors suivez-moi dans sa chambre. Et arrêtez de rire. Les murs, Les murs sont couverts de posters d'Indiens, tout en plumes, genre Geronimo. Et sur le plumard, vous savez ce qu'il y a sur son plumard? Il y a un tipi d'Indien. Benoît Piette dort dans un tipi d'Indien. Oui, monsieur. Je ne sais pas si c'est lui qui a tué sa femme, mais il est bien allumé, le père Piette. Il y a une piste qu'il faudrait pas négliger. Vous vous souvenez que le gérant du bar tabac a dit qu'il a vu Adeline le 4 juillet, soit 4 jours après sa disparition. Elle est venue lui acheter des cigarettes. Et il y a aussi une habitante du village qui l'a vu à un arrêt de bus, le même jour, le 4. Alors on les réinterroge, tous les deux. Et finalement, ils ne sont plus très sûrs de la date. C'était peut-être pas le 4. Et la piste se referme. Dans la foulée, Benoît Piette apporte aux gendarmes une preuve de l'existence de l'amant. Ah ah ! Une carte postale retrouvée dans sa boîte aux lettres. « Ma chérie, mon amour, je t'aime. Daniel qui t'aime, signé Daniel fait à Saint-Malo. » Les gendarmes assez facilement retrouvent le Daniel de Saint-Malo. Et le gars tombe des nues.
« Ah, mais j'ai jamais eu de relation avec Madame Piette. Enfin, qu'est-ce que c'est ça ? Je ne lui ai pas écrit de lettre. Mais enfin, on marche sur la tête. »
On a vite le fin mot de cette histoire. Une voisine a vu Benoît Piette envoyer une de ses filles poster la carte postale. C'est un faux, fabriqué par Benoît, qui du coup gagne des points au jeu du « qui est l'assassin ?» Sinon, pourquoi aurait-il fait ça ? Le 8 novembre, 4 mois après la disparition de sa femme, Benoît Piette est donc placé en garde à vue, chez les gendarmes de Saint-Malo.
Monsieur Piette, on a des témoignages. Des gens disent que vous étiez violent avec votre femme. Qu'une fois, vous auriez déjà tenté de l'étrangler. Vrai ou faux ? Ben vrai ? Vrai, on se disputait. Une fois, je l'ai serré au cou. Mais c'était il y a 10 ans, hein. Je picolais de ce temps-là. Je me suis soigné. Ça fait 9 ans que je touche plus d'alcool. J'ai jamais recommencé.
Et le soir du 1er juillet, alors, qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur ? Où était-il ?
Ah ben, j'étais chez mon cousin. J'ai emmené un de mes gosses. On a regardé un match et puis je l'ai laissé dormir chez lui. Oh ! Elle m'a fait une crise en rentrant, la Adeline. Elle a gueulé que je l'avais laissé dormir chez le cousin et on s'est pris la tête. Et après, elle s'est barrée.
Il était quelle heure quand vous êtes rentré chez vous après le match ?
Oh ben, je dirais 11h. 11h30.
À part ça, rien à en tirer. Et donc prudent, au cas où ils auraient besoin de le réinterroger plus tard, on lève sa garde à vue, au bout de 8h.
Monsieur Piette, vous pouvez rentrer chez vous.
Mais ne croyez pas que la gendarmerie a baissé les bras. Au contraire, elle a créé une cellule spéciale, baptisée « Disparition 35 ». 35, comme le département d'Ille-et-Vilaine. 7 officiers de gendarmerie y sont affectés à plein temps. Ce sont des moyens considérables. Et là, on reprend tout à zéro. Les gendarmes refont le tour du village. 750 maisons, une par une. Et beaucoup de gens ne parlent que d'une seule chose. Cette habitude qu'Adeline avait de marcher la nuit sur la route de Saint-Méloir-des-Ondes. C'est donc sur ce tronçon de route, 5 kilomètres, que commence par se concentrer l'enquête. Qu'est-ce qu'elle faisait la nuit sur cette route ? Est-ce que ça n'est pas là qu'elle a disparu ? Une fois de plus, on mobilise un hélicoptère qui survole la zone à basse altitude. On organise ensuite un ratissage tout le long de la route qui mobilise 200 personnes.
Vous ramassez tout ce que vous trouvez, hein ? Des bouteilles, des canettes, papier gras, pantalons, vêtements... Tout ce que vous trouvez, entendu ? Allez, c'est parti.
On fouille aussi tous les points d'eau. 175 au total. Des puits, des lacs, des étangs. Et au final, on ne trouve rien. Rien de rien. Et ensuite, on se met à explorer ce qui pourrait être le motif intime d'une fugue. Et une fois de plus, le mari, Benoît, suggère une piste.
Adeline, c'était un enfant adopté.
Je viens de m'apercevoir que son dossier de la DAS a disparu. Elle l'a emporté avec elle. Elle est peut-être partie chercher ses vrais parents.
Ça, c'est une piste intéressante. Adeline a été adoptée à l'âge de 3 ans et demi par un couple absolument hors du commun, les Lemarié, Patrick et Claudette Lemarié, qui ont accueilli, tenez-vous bien, jusqu'à 25 frères et sœurs adoptifs. Sans faire le tri, à bras ouverts, y compris des enfants difficiles et handicapés. Il y a d'ailleurs un documentaire qui a été fait sur ce couple, et on y voit la petite Adeline, jolie comme un cœur, entourée de poupées. Alors, est-ce qu'elle est allée chercher ses parents biologiques ? Il faut explorer cette piste. Les gendarmes retrouvent les parents, génétiques, à Nice. Ils jurent qu'ils n'ont jamais eu aucun contact avec elle. Et pendant ce temps, Benoît, le chef indien, continue de jouer les pères de familles nombreuses. Comme il peut, entre nous, avec des problèmes d'argent. Les gens de la commune sont touchés par ça, par la détresse de cet homme. Quand Noël arrive, Benoît met un cadeau pour Adeline au pied du sapin.
C'est au cas où elle revient, hein, les enfants?
Et à un moment, alors que les gendarmes ont tapissé la région d'avis de recherche avec une photo, un témoin se manifeste.
Oh ben je l'ai vu. Ah, j'en suis sûr, à Saint-Malo, dans le quartier de Rochebonne.
Malheureusement, on tombe sur un sosie, mais pas sur Adeline. Les gendarmes perdent aussi du temps sur la piste d'un tueur en série allemand, un camionneur, Volker Eckert, qui vient d'avouer 5 meurtres dans toute l'Europe. Des prostituées qu'il faisait monter dans son camion. Alors est-ce qu'il ne serait pas passé sur la route départementale 76 qui va de la Gouesnière à Saint-Méloir-des-Ondes? On vérifie son emploi du temps. Au moment où Adeline disparaît, le 1er juillet 2006, Volker Eckert était à Strasbourg. Il n'était pas en Bretagne. C'est une nouvelle fausse piste. Et donc on en revient, eh ben, au mari, à Benoît. Les gendarmes auditionnent un par un les 7 enfants, tous mineurs. Et là, un des fils raconte quelque chose de très troublant. Dans la nuit du 1er au 2 juillet, il raconte que son père est rentré tard et que de son lit, il a entendu son père et sa mère se disputer.
À un moment, j'ai entendu maman qui a crié « Arrête !» Et puis après, j'ai plus rien entendu. Il y a eu un grand silence.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
Comme je pleurais, mon père est monté dans ma chambre pour me consoler. Puis je me suis rendormi.
On en revient au père. Inéluctablement. Un autre des enfants, le fils aîné d'Adeline, 15 ans, raconte une autre scène, une nuit. Bien après la disparition de sa mère. Son beau-père Benoît était dans le jardin, il avait allumé un gros projecteur.
Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut encore se tarer? Il avait creusé des trous dans le jardin, figurez-vous. Il faisait du feu. Il y avait beaucoup de fumée, et puis une sale odeur. J'ai pensé à appeler les flics, mais... Moi, je l'ai pas fait. Et surtout, je me suis tiré pour qu'il me voie pas.
Et le même fils dit que Benoît lui a dit
« Toi, tu mériterais de finir comme ta mère. »
Est-ce qu'il ne serait pas temps de remettre Monsieur Piette en garde à vue, hein? En garde à vue 2 ans après, Benoît Piette commence par reconnaître que le soir du 1er juillet, il était saoul comme un cochon, ce qu'il n'avait jamais dit.
Ben, à la fin du match, quand j'ai quitté mon cousin, je me suis arrêté au bistrot et j'ai bu un verre.
Un seul verre? Ou plusieurs verres?
Vous nous avez dit, je reprends votre dernier procès-verbal, je ne touche plus à la boisson depuis 10 ans, parce que ça me rend violent. Ben... J'en ai pas bu qu'un seul, hein. Je reconnais.
Et là, d'un coup, il explose.
Mais enfin, je l'ai pas tué. Quand je suis rentré, je l'ai retrouvé pendu à la poutre du garage. Oh, c'était horrible. Elle avait des yeux tout exorbités et puis la langue qui sortait. Oh, c'était atroce.
2 ans 2 ans pour avouer un suicide. Vous y croyez ? Les gendarmes non plus. Mais admettons. Alors où est le corps ?
Bah, j'étais dans la panique. Je l'ai enterré dans le jardin.
À quelle profondeur ?
Ben, je sais pas moi, dans les 60 cm sous la terre, pas loin de la terrasse.
Vous avez compris pourquoi les gendarmes posent cette question. Il y a 1 an, ils ont fait passer des chiens détecteurs de cadavres. Ils n'ont rien trouvé. Ces chiens sont infaillibles, il n'y avait pas de corps. Et là, Benoît Piette fait une révélation fracassante. 10 mois après la mort d'Adeline, il a déterré le corps.
J'ai senti qu'il y avait un doute sur moi. Alors j'ai sorti le corps. Et je l'ai brûlé. Dans le barbecue.
Un corps entier dans le barbecue ?
Mais ça n'est pas possible, monsieur Piette. Ben si. Je l'ai fait en 3 fois. Ah, ça a été long, hein. À chaque fois, il a fallu que j'alimente le feu des nuits entières. Et puis ensuite, je mettais les cendres dans le poubelle. Et je les ai jetées.
Les gendarmes le ramènent sur place. Et ils leur montrent la poutre à laquelle Adeline se serait pendue. Et ensuite, ils leur montrent le trou dans le jardin où le cadavre serait resté 10 mois. Les gendarmes creusent et ils retrouvent des petits bouts d'os qui pourraient être des phalanges et qui partent direct au labo. Il leur montre aussi le barbecue miracule. Et en refouillant la maison, les gendarmes tombent sur un sac de chaux-vive. Il a recouvert le corps de chaux-vive. Et c'est pour ça que les chiens n'ont rien senti. Et donc, 2 ans plus tard, Benoît Piette est mis en examen pour meurtre par conjoint. Et il est écroué. Et les enfants découvrent toute l'histoire, vous n'allez pas le croire, hein, dans les journaux. Personne n'a pensé à les prévenir, à amortir le choc. Les enfants qui, pour les plus jeunes, sont donc placés en famille d'accueil. C'est rude, hein ? Leur père a tué leur mère et ils se retrouvent à la DAS. Le 3 octobre 2008, le juge organise une reconstitution sur place, dans la maison. Benoît Piette maintient la thèse du suicide. Alors, est-ce que ça tient ? Et là, il fait son cinéma. Il refuse d'entrer dans le garage. Remarquez, la scène est impressionnante. On a accroché un mannequin à la poutre. Pile aux mensurations d'Adeline. 1,74 m pour 57 kg. On le décroche et on va voir sur la poutre. Et il y a une trace. La corde a laissé une trace. Or, il n'y avait pas de trace. Et là-dessus, le médecin légiste vient donner un dernier coup de canif à la thèse du suicide.
Docteur, monsieur Piette dit que sa femme, pendue à 7 poutres, avait les yeux exorbités et la langue qui pendait. Est-ce que ça vous paraît cohérent avec un suicide par pendaison ?
Ah non, non. Nous avons vu beaucoup de suicides par pendaison au cours de notre carrière. Eh bien, la pendaison ne fait pas ressortir les yeux, hein, ni la langue.
C'est la preuve définitive que Benoît Piette ment. À ce moment-là vient une question assez naturelle. Quel est l'état mental du bonhomme ? Dont je vous rappelle qu'il dort dans une chambre tapissée de posters d'Indiens et sur un lit surmonté d'un tipi d'Indiens. En clair, est-ce qu'il est fou ? Un psychiatre l'expertise, le docteur Olivier Coldéfi. Et voilà ce qu'il explique. Monsieur Piette se perçoit comme persécuté, comme l'étaient les Indiens face aux conquérants du Nouveau Monde. Il est atteint de paranoïa. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un trouble de la personnalité que les psychiatres rangent en général dans la catégorie des psychoses. Alors, est-ce que cette paranoïa a pu altérer son jugement au moment des faits ? En gros, est-ce qu'il est responsable ? Réponse du psychiatre : non, ça n'a pas altéré son jugement. Oui, il est responsable. Donc, on peut le juger. Dernier rebondissement avant le procès. Un jour, Benoît Piette reçoit une lettre anonyme à la prison de Saint-Malo. Je vous la lis. Conseil, pour sauver les enfants, ferme-la. Tout peut arriver. Qu'est-ce que c'est que ce sac de nœuds encore ? Benoît Piette est à nouveau convoqué chez la juge. Et là, il fond en larmes et sert une nouvelle version.
Oh, madame la juge, je vous montre plus le début. Quand je suis rentré ce soir-là, elle n'était pas pendue. Elle était allongée dans le garage sur le dos. Puis il y avait deux hommes qui étaient sur elle. Et quand je suis arrivé, ils sont partis en courant. Et là, j'ai découvert qu'elle était morte.
On montre la lettre à une graphologue et elle conclut que c'est Piette lui-même qui a écrit cette lettre. C'est son écriture, à peine déguisée. Et d'ailleurs, un ancien co-détenu avoue que c'est lui qui a posté la lettre à la demande de Benoît Piette. C'était une ultime tentative pitoyable de Piette de ne pas assumer. Et c'est dans ce déni qu'il part pour la cour d'assises. Et son procès s'ouvre à Rennes le 22 février 2011, c'est-à-dire 5 ans après la mort d'Adeline. Tous les enfants sont là, bien sûr, sur le banc des parties civiles, sauf le petit dernier, qui n'a que 8 ans. Benoît Piette entre dans le box, on dirait un Indien, avec des cheveux longs. Il est complètement prostré. Il souffre du dos, il a du mal à se tenir debout. Et là d'entrée, il sert une troisième version.
Je vais dire la vérité. Je la dois aux enfants, non? Quand je suis rentré, on s'est disputé avec ma femme. Et dans la dispute, elle est tombée dans l'escalier. Voilà. La chute a été terrible. Elle est morte.
La thèse de l'accident après celle du suicide et celle du meurtre par deux hommes qui se sont enfuis. Personne ne le croit, évidemment. Les psychiatres viennent à la barre. Ils sont les seuls à proposer un mobile pour le meurtre. La peur du divorce, ça serait pour ça qu'il a tué. Et ensuite, on passe toute une journée à entendre un par un les enfants parler de leur père ou de leur beau-père. Ils racontent un homme violent et menteur. Les jurés Sérard sont au bord des larmes. Et puis vient la plaidoirie de l'avocate générale, Séverine Desbordes.
Il apparaît clairement que Benoît Piette devra être reconnu coupable du meurtre de sa femme. Il avait l'intention, en commettant des violences, de la tuer. Contrairement à ses affirmations qui évoquent une chute mortelle dans l'escalier. Or tout nous conduit à penser qu'en vérité, il l'a étranglée. Et donc vous déciderez d'une peine à la hauteur d'un assassinat. Une peine qui ne saurait être inférieure à 30 ans de réclusion criminelle.
Le délibéré dure 2 heures. Et je dois vous dire que pendant ce temps-là, personne ne donne cher de la peau de Benoît Piette. Et du coup, le verdict sonne comme un coup de théâtre.
Monsieur Piette, nous vous déclarons coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et nous vous condamnons à 20 ans de réclusion criminelle.
Les jurés ont eu un doute sur la volonté de Benoît Piette de tuer sa femme. Et la règle de la cour d'assises exige que le doute profite toujours à l'accusé. Les enfants sont déçus, mais ainsi va la justice. Voilà donc pour cette affaire criminelle de 2006 et je voudrais tout de suite faire appel à maître Pierre Stichelbaud qui est l'avocat de Benoît Piette. Bonjour maître.
Bonjour.
Est-ce que vous pensez qu'au fond le contexte de ce crime, j'ai envie de dire la misère tout de même dans laquelle évoluait cette famille, l'alcool que consommait votre client dans le déni mais qu'il consommait, peut expliquer ce verdict de clémence ?
Non, je ne crois pas. Je crois que c'est une famille qui rencontrait évidemment des difficultés. Vous avez rappelé un contexte difficile, cette famille nombreuse, une famille modeste qui vit effectivement des allocations familiales. Mais ce qui a vraiment compté pendant le procès d'assises, c'est l'absence de corps. On n'a pas de corps, on ne peut pas prouver que Benoît Piette a voulu tuer sa femme. Quand il y a un corps, il peut y avoir par exemple une autopsie, on peut prouver qu'il y a des coups mortels qui ont été portés, des marques de strangulation. Là, on n'a pas de corps, on n'a rien. Donc comment est-ce qu'on peut prouver que Benoît Piette a voulu tuer sa femme?
C'est de là donc que vient le doute qui finalement profite à l'accusé.
Oui, bien sûr, et c'est un doute qui est important parce que si vous êtes condamné pour un meurtre sur conjoint, vous encourez la perpétuité. Par contre, si on a à faire rectifier les faits dont Benoît Piette s'est rendu coupable en violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la peine maximale courue, c'est 20 ans.
L'expert psychiatre a diagnostiqué une paranoïa. Il dormait quand même dans un tipi d'Indien. On a affaire à quelqu'un qui n'est pas très équilibré, manifestement. Mais il ne considère pas que cette paranoïa est une abolition de son discernement. Est-ce que les jurés ne viennent pas dire aussi que peut-être l'expert est allé un peu vite?
Non, je pense que les jurés ont compris qu'il s'agissait d'une personnalité étonnante. Moi-même, j'ai été surpris quand on rentre dans cette maison de voir toute cette instrumentalisation autour des Indiens. Benoît Piette, c'est quelqu'un qui vient dire que son mode de vie, c'est la nature. Il a d'ailleurs dit plusieurs fois, ma loi à moi, c'est pas la loi des hommes, c'est la loi de la nature. Et je crois que ça résume bien l'état d'esprit qui est le sien. C'est quelqu'un qui vit dans son coin, qui vit seul. Alors on peut interpréter ça comme de la paranoïa, mais c'est d'abord quelqu'un qui vit auprès des natures et finalement pense très peu aux autres.
Est-ce qu'il a gardé, à votre connaissance, un contact avec ses enfants depuis sa condamnation, ou est-ce qu'ils ont refusé de lui pardonner?
Absolument aucun contact, et les enfants ne veulent pas le rencontrer.
Oui, il en souffre.
Il en a souffert dans un premier temps, puisqu'il faut savoir qu'après le procès, donc, il a fallu confier les enfants qui avaient déjà été confiés avant, donc dans des familles d'accueil, mais il a fallu renouveler les mesures de placement. Il a tenté un nouveau contact, il a eu un contact par l'intermédiaire du juge, par l'intermédiaire de l'avocat, mais il a très vite compris que les enfants ne souhaitaient absolument pas le revoir, et aujourd'hui, il ne cherche plus du tout à entrer en contact avec ses enfants.
Cet homme est toujours en prison à l'heure où on parle?
Oui, tout à fait.
Pour il longtemps
est en fin de peine. Non, il est en fin de peine, puisqu'il peut bénéficier d'une libération conditionnelle arrivée à mi-peine, et il est en prison depuis 2008.
Il est question qu'il sorte ou pas?
C'est une demande qui va être formulée, puis il a le droit.
Je suis au téléphone avec maître Colette Loas, qui était avocat partie civile dans cette affaire. Vous défendiez, maître, des enfants d'Adeline Piette. Est-ce que ils ont compris ce verdict et admis ce verdict?
Lors de la cour d'assises, ils ont été très choqués. Pourquoi? Ce n'est pas le quantum qui, moi, me satisfait. 20 ans, c'est une peine lourde, mais c'est effectivement la qualification. Nous étions tous, que ce soit le parquet, que ce soit les avocats, nous étions convaincus de la culpabilité, de l'intention de tuer de Benoît Piette. Et les enfants non-juristes n'ont pas compris effectivement que la qualification ne soit pas un homicide volontaire. Et ça a été effectivement, comme souvent, requalifié en coup volontaire et entraîné la mort sans intention de la donner. Et j'ai écouté Pierre, mon confrère, qui a effectivement dit, quand on a un corps entier, on peut voir, après l'autopsie, les blessures et comprendre ce qui s'est passé. Mais il a fait, comme malheureusement font les assassins, il a fait disparaître le corps afin de faire disparaître toutes les preuves. Mais ça n'empêche pas que le quantum était très lourd, 20 ans.
Est-ce que dans ce verdict, maître, il n'y a pas aussi au fond la prise en compte du contexte? On est dans une forme de misère, misère sociale, misère financière. On a un type qui est paranoïaque.
Qui avait des difficultés, effectivement. Sept enfants, une maman à la maison, et Benoît Piette ne travaillait pas ou travaillait peu. Les allocations familiales servaient juste, je pense, à nourrir la famille. La maison qu'ils avaient achetée, ils la rénovaient un petit peu, effectivement. Mais ce que je voulais dire au niveau des assises, ce que voulaient les enfants, pourquoi ils ont réagi comme ça? Parce qu'ils voulaient la vérité. C'est ça qu'ils voulaient. Moi, j'ai été pleine d'admiration pour ces enfants qui étaient devant moi au premier rang et qui, à aucun moment, n'ont voulu sortir de la salle d'audience. Ils ont tout entendu, ils ont voulu tout entendre. Ils voulaient que leur père dise enfin la vérité, alors qu'il a toujours menti. Il a menti jusqu'au dernier moment. Quand il nous a raconté l'histoire de la chute dans l'escalier, mais c'est n'importe quoi. Il n'a fait que mentir, manipuler, alors que les enfants voulaient la vérité. C'est ça, au fond, ce qu'ils voulaient, la vérité. et qu'elle puisse coïncider avec la vérité judiciaire, c'est-à-dire une qualification. Mais on comprend les jurés. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais 20 ans, c'est une peine qui est quand même relativement lourde et qui était adaptée, je pense, effectivement, à ce drame.
Je l'ai raconté, une journée entière de ce procès, qui n'a duré que 4 jours, a permis d'entendre les enfants successivement, oui, les uns après les autres. Oui. On dit que les jurés ont pleuré. Ça veut dire que c'était un moment très touchant.
C'était très émouvant. Parce que le courage de ces enfants, n'oubliez pas qu'il y en a un qui a entendu et qui a compris ce qui s'est passé, le petit, en réfléchissant. Et heureusement, ces enfants ont remarquablement évolué, ils ont été placés en famille d'accueil, ils sont soudés ensemble, et l'aîné des enfants a réussi, et j'étais son avocat, à avoir la garde de tous ses petits frères et sœurs afin que la fratrie se retrouve.
C'est la sœur aînée qui a la garde.
Oui, je trouve ça absolument admirable comment au moment du procès et ensuite dans l'avenir, après, ils se sont soudés, si vous voulez. Je trouve ça. Et ces enfants, effectivement, c'était très très émouvant. Moi-même, j'avais les larmes aux yeux quand je voyais ces enfants être sur les bancs, entendre tout et supporter tout ça, mais c'est un véritable traumatisme.
Bon, vous nous dites quel âge ils avaient quand même à l'époque. Alors, tous ces gamins assis sur le banc là.
Les petits au moment des faits, j'en avais trois, une, je ne veux pas dire leur prénom bien évidemment, oui, oui. La jeune fille avait 12 ans au moment des faits, les deux autres garçons dont j'étais l'avocat avaient 15 ans et 11 ans, et ensuite mon confrère Tellier qui avait lui les autres, les trois petits derniers, il y en avait un qui était tellement petit, c'était un bébé, les deux autres plus jeunes avaient 9 ans avait 9 ans et 7 ans au moment des faits. Donc, au moment des faits, vous ajoutez, comment dirais-je, 5 ans plus tard, hein, oui, ils étaient des grands ados, hein, des jeunes hommes, une jeune fille, lorsque la cour d'assises est arrivée. Hein, et les petits derniers étaient des adolescents. Donc, pour eux, ça a été un véritable traumatisme. Ils avaient perdu leur mère, leur père était en prison, ils étaient dans des familles d'accueil. Donc, tout ça a été très, très difficile à vivre pour ces enfants-là. C'est pour ça que leur courage et leur volonté de savoir la vérité, et surtout la souffrance de voir que leur père, au dernier moment, devant la cour d'assises, dit « je vais vous dire la vérité », il a encore inventé quelque chose, si vous voulez, l'histoire de la chute dans l'escalier. Or, on sait très bien qu'il l'a étranglé.
Est-ce qu'il est pensable qu'un jour, à votre avis, les enfants revoient leur père et considèrent ce que dit le verdict, que c'est un accident ?
Je ne pense pas. Parce que la jeune fille que je défendais, elle était la seule à avoir été le voir à la prison et avec simplement l'intention de lui demander de dire la vérité. Il n'a rien dit, elle ne voulait plus le revoir. Donc les enfants ne veulent absolument pas revoir cet homme. Absolument pas, ils ne le considèrent plus comme leur père et ne veulent plus porter son nom.
Merci beaucoup, Maître Loas, d'être intervenu depuis l'Ille-et-Vilaine en direct. Voilà donc pour ce récit.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.